femmes de caractère.
Rencontre avec des femmes qui agissent, écrivent, voyagent et qui pensent avec leur temps.
Françoise Ramel vous invite sur Radio Broadwinette à des rencontres avec des femmes inspirantes.
Bienvenue dans l'émission Femmes de caractère. Nous sommes en 2021. L'émission a déjà un an et deux, trois confinements. Nous sommes déjà à 24 invités qui sont passés dans nos studios à Pontivy sur donc les ondes de Radio Broadwinette. Et j'accueille aujourd'hui Stéphanie Théobald.
Bonjour.
Bonjour Stéphanie. Alors Stéphanie, tu viens de très très loin, de Mélionnec.
C'est ça.
Alors Stéphanie, tu es chanteuse et comédienne, tu vis à Mélionnec, je viens de le dire, et je te remercie d'abord d'avoir accepté de venir te prêter à ce jeu d'une conversation à bâtons rompus autour de ton parcours, de ce qui anime tes engagements, et puis de la raison pour laquelle tu as envie aujourd'hui de partager une partie de toi-même.
Bah, je te remercie pour l'invitation aussi.
Alors, chanteuse et comédienne, c'est quelque chose qui arrive rapidement dans ta vie ou tu es partie d'autres expériences personnelles?
En fait, j'ai le souvenir que ça a été toujours clair dans ma tête depuis toute petite, en fait, que j'étais chanteuse. Après, ce n'était pas aussi clair dans la tête de mes parents. Donc, eux, ils avaient prévu plutôt une carrière classique, plus classique. Moi, je voulais faire un lycée musique et ils m'ont emmenée sur un lycée langue, et d'ailleurs avec première langue française. Et ils avaient, je pense, projeté une carrière de secrétaire internationale ou quelque chose de ce genre pour moi. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient très ouvertes à des métiers artistiques. Et surtout pas pour une jeune femme, en fait.
Voilà. Alors, cet environnement familial, il est en Allemagne, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Dans quelle région?
Le sud, en dessous de Stuttgart, Reutlingen, Tübingen, voilà.
Et à ce moment-là, tu apprends le français à l'école, c'est ça? Mais est-ce que tu as des représentations de la France, de la Bretagne, ou tout ça, c'est très scolaire, finalement?
Ça a été très scolaire, mais après, il y avait déjà les échanges scolaires. Donc, ma première rencontre, c'était donc un échange scolaire. Je ne sais pas quel âge j'avais, je ne sais plus, 14 ans, je suppose. Et j'avais une image, en tout cas, ce que nous, on a pris de la France au lycée. J'avais une image d'un pays extraordinaire, le pays de la culture, le pays des droits de l'homme, enfin... on a appris beaucoup sur la Révolution et j'avais comme une image aussi de comparaison du passé de la France avec ce pays de révolutionnaires et puis le passé de l'Allemagne avec ce pays de gens qui ont obéi à des ordres monstrueux, en fait. Donc pour moi, c'était quand même projection de sur ce pays, voilà, de donc, liberté, quoi.
Et donc, toujours à l'âge de l'adolescence, ton environnement musical, puisque tu deviens chanteuse, j'imagine que tu écoutes de la musique, que tu cherches des inspirations, même si tu n'en fais rien tout de suite, mais voilà. Qu'est-ce que tu te mets dans les oreilles à ce moment-là?
En fait, j'ai écouté tout, vraiment tout, tout ce que je pouvais trouver, comme j'ai lu aussi tout ce que je pouvais trouver, comme justement ma famille d'origine était un peu fermée d'esprit, peut-être de culture aussi, ça m'a emmené moi plutôt à m'ouvrir vraiment fort à toutes les influences possibles. Donc c'est vrai que j'ai cheminé un peu toute seule jusqu'au jour où j'ai décidé donc de quitter cette famille d'origine à 16 ans. Et puis,
Tu es partie à 16 ans?
Voilà, c'est ça.
La rupture. C'est des choix difficiles, j'imagine.
Oui, je pense que ce n'est pas facile à 16 ans, oui, de construire sa vie finalement toute seule. Et d'abord, à l'inverse aussi de sa famille d'origine.
C'était le prix de la liberté.
C'était le prix de la liberté et du choix de devenir peu à peu ce que je pensais être réellement. Voilà.
Et avec les autres jeunes femmes de ton âge que tu croisais, est-ce que tu avais l'impression de pouvoir parler de tes centres d'intérêt, parler de tes questionnements personnels, ou est-ce que tu avais le sentiment d'être aussi seule
Enfin, assez par rapport à l'âge. En fait, mes amis, c'est vrai que même à l'âge d'adolescente, étaient déjà beaucoup plus âgées. Mes copines avaient au moins 10, si pas 15 ans de plus, parce que c'est vrai que si on se construit un peu toute seule et qu'on prend l'indépendance aussi tôt, c'est vrai qu'on n'est pas au même âge d'évolution que les ados autour, quoi. Voilà.
Alors, tu as choisi de nous apporter un gros livre. Hein, c'est un recueil de poèmes, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Alors, tu peux nous présenter ce livre et nous lire un premier texte?
C'est un livre d'Ingeborg Bachmann. En fait, c'était une poète après la Deuxième Guerre mondiale. Son père a été assez investi. En fait, il a été investi, il était nazi. Et elle s'est construite aussi, je pense, j'interprète ça comme ça, à l'opposé, en fait, de ce que son père a pu faire. Et là, c'est un recueil de poèmes entre 1942 et 1967 qui s'appelle « Toute personne qui tombe a des ailes ».
Voilà. On t'écoute, Stéphanie.
L'esclavage, je ne le supporte pas. Je suis toujours moi. Quelque chose veut-il me faire plier ? Je préfère casser. Vienne la dureté du sort ou du pouvoir humain, me voici, ainsi. Je suis, je reste, et reste ainsi jusqu'à mes dernières forces. C'est pourquoi je ne suis toujours qu'un, je suis toujours moi. Si je m'élève, je m'élève très haut. Si je tombe, je tombe entièrement.
Alors entre monter et descendre, il y a aussi un autre mouvement, celui de marcher. Donc je fais cette transition. Tu as choisi de nous faire écouter Camille, cet air très très doux, Quand je marche. Voilà, qu'est-ce que cette musique t'évoque et nous voilà déjà en France?
Eh bien, je retrouve le même sens en fait dans son texte. C'est quand elle fait ce qu'elle fait en fait. Elle est dans ce qu'elle fait entièrement en fait.
Alors, on se retrouve tout à l'heure pour parler justement d'engagement après ce morceau de Camille, Quand je marche.
Quand je marche, je marche. Quand je dors. Quand je chante, je chante, je m'abandonne. Quand je marche droit. Quand je chante nu. Et quand j'aime, je n'aime que toi. Quand j'y pense, je ne dors plus. Je suis ici, je suis. Je ne me moquerai. puis la pluie.
Femme de caractère, Françoise Ramel.
Je suis donc avec Stéphanie Théobald dans les studios de Radio Brogenette à Pontivy. Stéphanie, nous parlions juste avant d'écouter ce morceau de Camille, de tes choix. Hein, mm-hmm. Tu as quand même choisi de faire une rupture importante à l'âge de 16 ans, mm-hmm. parce que tu sentais en toi une volonté de vivre quelque chose de fort dans ta vie, que tu ne voulais pas laisser personne t'imposer, mm-hmm. Aller contre ta propre volonté. Stéphanie, tu as réalisé ton rêve, finalement, tu vis en France. Hein, bon, alors, tu as choisi la Bretagne et le centre-Bretagne, donc merci pour ça déjà. Et surtout, tu es effectivement chanteuse et comédienne et directrice artistique du festival Empreinte d'artiste, donc sur ta région, hein, mm-hmm. Rostrenin, Gouarec, l'Escouade Gouarec et Méguenec. Voilà, comment tout ça donne du sens à ta vie, ça remplit ta vie aujourd'hui?
Eh ben, c'est ce que je suis entièrement. En fait, je vis tous les jours pourquoi je pense être là, quoi, sur sur cette terre. La musique et l'art, c'est la façon de laquelle moi je peux le plus apporter en fait ce que j'ai au fond de moi en fait. Voilà, donc là, comme j'ai la chance ou même enfin voilà la chance de vivre ça dans le quotidien depuis maintenant presque 25 ans, moi je suis heureuse d'avoir fait ce choix. Je suis heureuse d'avoir fait ce choix. Et puis, c'était un choix juste. Et ça fait que, comme peut-être mes collègues, quelques-uns de mes collègues diraient aussi, je ne suis jamais en vacances. Alors, je ne travaille jamais ou toujours, en fait. Mais ça ne me semble pas être un travail qui me pèse. C'est pas facile, hein, surtout pas en ce moment. C'est pas simple, c'est des fois fatigant, mais c'est jamais. Ça me rend toujours heureuse, en fait.
Alors, on va essayer d'explorer ça, justement. c'est un mouvement, hein, on disait quand je marche, mm-hmm. La création, c'est un mouvement de soi à soi, mm-hmm. mais qu'on ne vit pas que pour soi.
Non.
Non. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire moi je suis là pour apporter quelque chose, oui. mais ça demande énormément d'énergie, énormément de conscience, mm-hmm. de présence à soi-même, oui. pour aller chercher de l'inspiration, de la matière, avoir du goût à la transformer. Est-ce que tu peux nous faire entrer dans les coulisses là, de la création telle que toi tu la vis?
Ben, je pense que le plus difficile ou le plus contraignant, c'est de trouver quelque chose de juste en fait. Pour moi, en tout cas, dans ma recherche artistique, c'est que j'ai la plus grande peur que j'ai, c'est de pas trouver la racine, l'essence honnête et juste de ce que j'ai à partager en fait, et que en plus que ce que je veux partager soit pas juste une forme de autothérapie, donc de travail sur moi-même, mais aussi quelque chose que je peux apporter aux gens et qui peut leur apporter quelque chose dans leur vie sans que ça parle forcément de moi. Donc en fait, il faut que je trouve quelque chose en moi, mais qui reste accessible et qui résonne chez les personnes pour lesquelles je fais cette musique aussi en fait.
Alors, quand tu fais de la musique, tu vas chercher aussi des coopérations, des mm-hmm. collaborations. Et oui. ça aide aussi à ne pas avancer seule. Oui. Tu peux nous parler de certains projets qui t'ont vraiment permis de toucher du doigt cette justesse dont tu parles?
Alors, quand je suis arrivée en Bretagne, le premier projet que j'avais, c'était un projet avec Jonathan Dour et ensuite Mathilde Chevrel, Benoît Guimau et puis d'autres musiciens. Ça s'appelait Aoudan. Et du coup, voilà, ça c'était vraiment le groupe avec lequel j'ai évolué les premières années en arrivant ici. Et c'est des personnes avec lesquelles je travaille encore régulièrement aujourd'hui aussi. Donc, avec Mathilde, j'ai travaillé il y a un an sur un autre projet. Et là, il y a une nouvelle création depuis cette année. Avec donc Jonathan, Benoît et puis aussi ma grande fille, Mara. Et ce groupe s'appelle White Oak Standing. Et c'est un projet autour de textes qui sont écrits par une jeune femme, donc une jeune femme qui a maintenant 18 ans. Ce projet est basé sur ces textes et co-créé musicalement avec ma fille qui a 17 ans. Et nos univers qui s'inspirent réciproquement, donc celle de ces jeunes femmes, mais aussi le mien... on se retrouve dans les sens de ce qu'on a à dire sur notre féminité, mais de façon très variée, en fait. Et j'ai cet entourage des musiciens avec lesquels je travaille maintenant depuis voilà, plus qu'une dizaine d'années, auxquels je peux faire entièrement confiance et qui sont un support agréable pour cette création, par exemple.
Ce rapport à la transmission entre générations, en tant que maman, en tant qu'artiste, en tant que citoyenne, et ce rapport à la féminité, est-ce que c'est un même chemin ou c'est un croisement dans ta vie
Là, c'est pareil. En fait, c'est comme pour mon art. En fait, c'est un quotidien. C'est comme ça que je vis. Et du coup, comme je vis comme ça et que je vis comme ça aussi avec mes enfants, c'est vrai que c'est une évidence, en fait, de partager déjà dans le quotidien hein, tous ces valeurs, mais aussi, forcément, mes enfants, ils ont grandi, du coup, aussi entourés d'artistes, de musiciens, de circassiens, de comédiens, et puis ils ont baigné dans cet entourage. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent des mêmes choix de vie professionnelle. Mais il se trouve que là, ils sont partis, ce qui est peut-être aussi évident. Hein, voilà.
Oui, mais ça dit aussi quelque chose de toi, d'une de tes qualités, Stéphanie, sur ce projet dont tu parles, là, avec cette écriture de jeune femme. Oui. C'est aussi ta capacité d'écoute ou d'aller chercher, justement, ailleurs que dans toi-même,
ce qui
fait résonance avec une époque, avec des inquiétudes peut-être, avec des manières de voir la vie.
Tout à fait. On a dépassé des enfances. Moi, j'ai éduqué ma fille forcément autrement que moi j'étais éduquée. Donc, il y a des questionnements que les jeunes femmes ou ces deux jeunes femmes, ils n'ont pas de la même façon. Et ils ont aussi des réponses que moi, je n'ai pas encore ou je n'ai pas eues. Donc, c'est vrai que ça m'apporte beaucoup hein, parce que je peux avoir voilà, des réponses que moi, je n'aurais pas pu trouver toute seule avec un passé autre. Voilà.
Et donc, ce que m'inspire, ce que tu dis, c'est une curiosité gourmande, mais le mot est moche, mais très moche, utilitaire. C'est très, très moche, je suis désolée.
D'accord.
Mais c'est-à-dire que si je voulais demain, moi, assumer une part artistique, me mettre au travail, créer, etc., c'est dire, voilà, il faut avoir cette curiosité et cette capacité de se remettre en cause, de re-questionner toujours des choses chez soi.
Je pense que c'est la base, en fait.
Ouais.
Oui. Bah, sinon, je ne vois pas. Hein. On ne peut pas avec...
C'est un rapport à l'incertitude,
oui.
C'est ça ?
Je ne pense pas qu'on peut être artiste avec des certitudes. Hein. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible.
Et l'incertitude n'est pas forcément inconfortable, c'est ça que tu dis ?
Bah, c'est un mini inconfort au moment où il faut dépasser. Voilà. Ce n'est pas agréable de dépasser ses limites, forcément. Mais après, il y a toujours un résultat positif. Parce qu'on a appris quelque chose, parce qu'on a libéré quelque chose, c'est sûr. C'est comme un peu un accouchement. Hein.
Peut-être... Bah, écoute, peut-être que le deuxième texte que tu as choisi, donc dans ce même recueil de poèmes, redis-nous le titre de ce recueil. Hein.
Il s'appelle « Toute personne qui tombe a des ailes ».
Alors, où nous emmène le deuxième poème choisi par Stéphanie Théobald ?
Alors, il s'appelle « Confession ». Je ne peux vivre sans ressentir toujours une étincelle de feu ardent. Mon cœur préfère voyager éternellement plutôt que refroidir dans le fleuve des jours. Je cherche l'amour aux ultimes confins et brûle de lâcher prise enfin, quand bien même tous mes piliers cèdent, m'abandonnant dans les mains du mal, je me tiens rayonnante devant les plus profonds abîmes, afin de connaître leur sens ultime. Et il m'est permis aux heures magiques d'aller à l'origine, au fond des énigmes.
Ça fait envie, effectivement. Et on est sur cette histoire d'incertitude, accepter l'inconnu, aller vers cet inconnu, explorer. Et donc, dans notre exploration du jour, grâce à Femmes de caractère et grâce à toi, Stéphanie, nous allons écouter une de tes compositions, un texte que tu as co-écrit, un morceau que tu as co-composé avec Paco Reth. Alors, c'est la formation qui s'appelle Claim ou c'est le...
Le titre, il s'appelle Claim.
Claim.
Prétendre.
Prétendre. Bah écoute, on écoute ça, puis on se retrouve juste après.
Femme de caractère, Françoise Ramel.
Alors dans cette émission Femme de caractère, vous l'avez compris, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes avec Stéphanie Théobald. Et Stéphanie vient d'Allemagne, mais il y a fort longtemps, comme dirait l'autre. Donc tu vis à Millionnex, c'est là que tu réalises ton rêve depuis très longtemps déjà. Voilà, tu te produis sur scène, tu montes des projets avec des artistes, des metteurs en scène, des metteuses en scène. Tu es toi-même metteuse en scène. Tu as la responsabilité d'un festival empreinte d'artistes que j'invite tous les auditeurs auditrices à suivre. Mais là, tu veux nous parler d'un moment de ta vie très particulier où tu retournes en Allemagne pendant 2 ans. Mais pour y faire quoi?
Alors, ça, c'est un choix que j'ai fait en fin 2015 avec mes enfants. C'était le moment où l'Allemagne a invité, du coup, sur une année, 1 million de personnes. Et sur plusieurs années, ça dépassait. Enfin, c'était même 2 millions et quelques de personnes réfugiées au début, surtout d'Afghanistan, de la Syrie, et puis ensuite de Somalie, etc., de l'Afrique aussi. Donc, en fait, comme j'ai fait une première formation d'éducatrice À mes 16 ans, j'ai fait une formation d'éducatrice. Enfin, ça s'appelle pédagogue sociale en Allemagne. J'étais partie en vacances chez une copine et j'ai rencontré là-bas un monsieur qui a ouvert un centre d'accueil pour des jeunes immigrants isolés, non accompagnés, je ne sais pas comment on dit en français. Et qui cherchait désespérément en fait des éducateurs pour ce lieu-là d'accueil et voilà, on en a discuté en famille et je me suis dit que voilà que j'avais moi réalisé mon rêve, mon travail depuis presque du coup une vingtaine d'années et que c'était un moment où j'avais envie de donner de mon temps de vie à un projet plutôt social, voilà.
Alors, un choix pas simple, parce que tu embarques tes trois enfants dans l'histoire. Donc, il y a la discussion, il y a leur choix à eux.
Oui, et ils étaient d'accord. Pour eux, c'était évident qu'il fallait soutenir ce genre de projet.
Ils sont bilingues, ils parlaient allemand, tes enfants ?
Ils n'étaient pas encore parfaitement bilingues. Ils parlaient allemand, mais ils ne lisaient pas encore, ils n'écrivaient pas.
D'accord.
Donc, on est parti en Allemagne et on a vécu près de ce lieu d'accueil. Mes enfants, du coup, ils ont fait 2 ans d'école en Allemagne. Et du coup, voilà, maintenant, ils sont parfaitement bilingues. Mais quand on est arrivé là-bas, Mara, par exemple, ma grande, elle n'avait pas tout de suite une place à l'école. Et du coup, je l'emmenais au travail. Et elle a passé les premiers 3 mois de l'année ensemble avec ces jeunes adolescents, surtout afghans et syriens, dans ce lieu. Et puis, c'était une expérience extraordinaire hein, pour les enfants, pour moi. Et je pense aussi pour les gars, parce que c'était vraiment des mondes qui sont tombés, comment on dit ça, face à face, quoi.
Oui, voilà, c'est une confrontation brutale de culture, de déracinement, d'histoire à reconstruire, de blocages liés au langage, mais aux manières d'être aussi, qui sont tellement différentes. Est-ce que dans ce choix-là, il y a ton passé de pédagogue sociale, tu l'as dit, une expérience que tu revisites avec la maturité d'une femme qui est maman.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y a l'idée de se dire ce qui se passe aujourd'hui dans le monde m'appartient et je ne peux pas laisser tout ça arriver et juste m'occuper, moi, de ma musique à Millionnec.
Tout à fait. Tout à fait. Avant, je ne vivais d'ailleurs pas encore à Millionnec, mais au Favrette. Non, tout à fait, en fait. Moi, je me suis dit que je suis en train de discuter, de théorétiser autour du problème ou des questions de l'immigration, mais en fait, je ne fais rien. Je ne fais rien, en fait. On discute, on a des avis, mais... Donc, voilà, je suis partie aussi avec des illusions. Hein. Je suis partie avec des illusions... un peu naïf d'une facilité, en fait, de ce travail-là. Et ça a été très, très dur les premiers 3 mois. C'était vraiment extrêmement dur, en fait, de se confronter à un décalage complet à tous les niveaux, culturel, religieux, la place de la femme. Moi, du coup, une autorité pour des jeunes hommes qui n'ont plus eu d'autorité et surtout pas d'autorité féminine depuis un paquet d'années. Et puis, voilà, c'était dur, mais pareil, ça a emmené à quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en fait, quand on avait un peu, comment on dit ça, défriché les visions différentes, les cultures différentes, et qu'on a trouvé un terrain d'entente et de communication, et je me suis quand même retrouvée... souvent seule avec une vingtaine de jeunes hommes. Quand ça s'était fait, après quelques mois, et que les intentions, pas les positions, mais les intentions de chacun étaient claires, on a pu construire un projet artistique, en fait. Je leur ai proposé, parce que en fait, j'étais censée être celle qui était référente de la culture dans ce lieu. Donc, j'ai commencé à emmener les gars à des concerts, à l'opéra, dans des expositions d'art aussi. ce qui était des moments pareils, délirants, parce que c'est vrai qu'ils étaient morts de rire. L'art contemporain, pour eux, c'était juste du délire complet. Ils ne voyaient pas le sens. Il y avait vraiment beaucoup d'échanges sur comment l'art en Europe, et puis ce que eux ils considèrent, il y a l'art perse, il y a tous les poètes, c'est quand même magnifique aussi l'héritage qu'ils ont, et puis la comparaison de ce que nous on considère aujourd'hui ici ou en Allemagne comme art, etc. Enfin, c'était et de là est parti un projet artistique avec une compagnie d'ailleurs d'ici qui s'appelle Les Arts Paisibles.
Ouais.
Et en fait, j'ai invité Lionel Epaya, avec qui je travaillais déjà avant, à venir en Allemagne, et on a construit une exposition avec ces garçons ensemble, une exposition où, enfin, c'est ce qu'on appelle de l'art brut, où ils choisissaient un souvenir de leur cheminement, de leur
parcours d'exil,
voilà, et qui le dessinaient sur une pierre et qui parlaient de ce souvenir en perse. Donc, on les a enregistrés, on a chanté ensemble, ils ont dessiné, ils ont écrit de l'autre côté en perse le mot, et puis c'est devenu une exposition qui s'appelle Les pierres des souvenirs, qu'on peut d'ailleurs voir aussi cet été, normalement, sur le festival Empreintes d'artistes.
Ah, super!
Donc, du coup, il y a cette exposition, mais qui est aussi une exposition sonore et participative, parce que l'idée, c'était que les visiteurs de cette exposition eux-mêmes peuvent dessiner une petite pierre, donc on appelait ça les pierres de souhait, et chacun pouvait dessiner un peu ou peindre une petite pierre de souhait et mettre autour de ce cheminement-là de ces garçons-là. Et donc l'expo, elle est venue en Bretagne, elle est repartie en Allemagne, donc les gars, ils ont vu aussi les pierres qui se sont rajoutées à leur exposition, elle est revenue en France et voilà, c'était nous, on avait forcément, on rêve toujours grand, les artistes. Hein. Nous, on avait rêvé que ça allait être une exposition qui allait faire le tour du monde et
mais
qui
c'est
avait
pas fini,
toujours
voilà,
des pierres qui allaient se rajouter et raconter ces vies-là. Voilà.
Ce que tu racontes là, c'est assez révélateur de ce que c'est que l'acte de création. C'est d'abord une histoire de relation, de vouloir rentrer en relation. Oui. Au-delà du langage, au-delà des histoires personnelles, c'est-à-dire c'est tisser du lien entre sa propre histoire, celle de quelqu'un d'autre,
exact.
C'est ça.
Ouais.
Et puis c'est aussi l'incarnation dans un espace, dans un temps, avec les savoir-faire. Là, tu parles de Lionel et Payard et de sa compagnie. Voilà, c'est tout ça qui fait l'art finalement. Mm-hmm. C'est la sensibilité, l'émotion. La complication, si c'est trop simple, il n'y a pas d'acte de création. Et puis, toujours l'idée de se déplacer d'un pas de côté, c'est ça, pour vivre des choses plus importantes.
Et puis ensuite, avec ces garçons-là, ou avec ces jeunes hommes-là, c'était aussi de trouver de quelle façon on peut se faire confiance. Parce qu'en fait, pour co-créer quelque chose ou inviter quelqu'un à créer quelque chose qui lui semble complètement délirant, en fait... C'est que créer, voilà, le comment dire, au fond, qu'est-ce qu'on partage humainement ? C'est pas qu'est-ce qu'on partage pas, parce qu'il y avait vraiment 90% des choses qu'on partageait justement pas, mais qu'est-ce qu'on partage au fond de l'essence et qu'est-ce qu'on peut créer ensemble à partir de là, en fait.
Est-ce que tu as connaissance d'initiatives similaires ou qui s'inspirent des questionnements de... Qui étaient les tiens, en France ou ailleurs? Est-ce que tu as entendu parler de projets
J'ai entendu parler d'associations qui commençaient à mettre des choses en place, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile ici. Enfin, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai qu'en Allemagne, comme il y avait tellement de gens qui arrivaient, c'est vrai que c'était vraiment soutenu par l'État, aussi financé par l'État, toutes ces choses-là, et puis même des démarches privées. Donc ici, je vois pas mais autant de.
Mais tu penses
d'accueil.
Que ce serait intéressant d'aller justement sur ces champs de la culture.
Ah oui.
On en a besoin, c'est ça?
Mais oui, je crois.
Nous, on en a besoin, mais les gens qui arrivent aussi.
Oui, je pense que de toute façon, le besoin, c'est de s'entendre et de se comprendre réciproquement. Hein. Pas que nous, soi-disant, les personnes qui viennent, mais aussi les personnes qui viennent. Pour qu'une intégration se fasse, il faut que les deux côtés bougent, en fait. Mmh. Il faut que les deux, si on parle de deux cultures, ça n'existe même pas, mais bon, voilà, la culture. Il faut qu'il y ait une ouverture dans les deux sens. Et on peut toujours apprendre, en fait. On peut toujours apprendre, forcément.
Et puis, c'est le faire sans idéaliser non plus,
oui.
Ni sa propre histoire,
non.
Ni celle de l'autre. Voilà.
Non,
c'est partir au contraire d'une matière un peu brute, comme un diamant brut. Et on voit, à force de polir, à force d'échanger, qu'est-ce qui peut sortir d'utile pour les deux parties, enfin pour les personnes qui participent au projet, ce qui peut ressortir. Parce qu'on est allé justement à l'essence même de ce qui peut faire une rencontre, en fait.
En tous les cas, je pense que une cohabitation paisible, elle peut que se faire comme ça. C'est pas que une partie se prend pour, je sais pas, justement les éducateurs. Moi, j'ai eu du mal avec cette position, finalement. Parce que en fait, c'est pas des rencontres, ils font pas de haut en bas, vers le bas, quoi.
Oui, il y a pas celui qui sait,
voilà.
Celui qui sait pas.
Voilà. Donc toutes ces structures de hiérarchie, de domination, qui a quand même beaucoup encore, si je peux me permettre, dans ce pays, quoi. Il y a plein de choses qui sont structurées, vraiment structurées de cette façon-là.
Entre la domination et l'humiliation, dans ces cas-là, la frontière est très très poreuse, hein, voilà. Bon, donc Stéphanie, tu as choisi aussi de nous parler d'une femme inspirante, parce qu'on devient ce qu'on est, n'est-ce pas, à force de courage et de rencontres, certes, mais aussi parce qu'on puise auprès d'autres femmes qui ont aussi des parcours impressionnants ou touchants. Donc tu as choisi de nous parler de qui?
De Lassa. C'est une chanteuse qui m'a beaucoup touchée, en fait, que j'ai découvert en France, parce qu'elle a vécu ici, mais qu'elle venait aussi de l'Amérique du Sud. Elle a chanté en français, en espagnol et en anglais. Et je dis bien, elle a chanté parce qu'elle est décédée d'un cancer il y a déjà quelques années. Jeune femme, d'ailleurs. Et en fait, ce qui m'a inspirée, c'est sa simplicité, en fait. Et je trouve qu'elle a une simplicité dans son écriture musicale, aussi bien de son écriture de paroles que je trouve extraordinaire, parce que moi en tout cas, elle arrive à me toucher justement au fond, dans cette essence-là, avec ses mots si simples et en même temps si
emplis de sens.
Voilà, c'est ça. Donc, voilà.
Tu veux nous partager un des textes que tu as choisi?
Oui, elle a écrit un texte dans un interview sur soi-même, en fait, que je trouve très touchant, où je me retrouve aussi, en fait. Donc, j'ai découvert, quand j'étais petite, que toute chose sur la terre, vivante ou non, avait une attitude, un message, un geste. Je me disais, tout est vivant, il faut faire attention à ce qu'on crée. J'écris des chansons pour m'aider à avancer. Elles sont mes étoiles. Elles me guident dans la nuit. Une musique que j'aime est comme la rencontre avec une vie extraterrestre intelligente. Un miracle. Cette basse est le son du destin. Un grognement de la terre, l'approche d'une tempête. Cette guitare est une rivière. Elle est lumineuse. Elle est extravertie. Elle n'a peur de rien. Cette batterie danse comme un petit soldat coloré. Cette chanson est comme un départ à l'aube, un départ triste, mais les montagnes sont belles, l'air est frais. Ce silence est le silence d'une grande pièce en pierre, vide, avec des rayons de soleil pleins de poussière. Cette voix a l'humour d'un bon père qui aime ses enfants. Cette chanteuse a la rage d'une femme qui aime la vie et n'accepte pas qu'elle devienne grise. De la compassion, enfin de la compassion. Tu aurais pu détruire, mais tu as créé. Tu aurais pu tuer, mais tu as donné. Tu aurais pu t'écrouler, mais tu t'es levé. Tu aurais pu t'éteindre, mais tu t'es allumé. Tu as fait grandir le cœur de ce monde. Tu as repoussé les murs. Merci, Lhasa.
Waouh, très chouette aussi. Ouais. Je comprends que tu sois inspirée. voilà, ça rejoint effectivement ce que tu nous disais, des mots justes, une forme d'honnêteté à soi-même, au monde, etc. Écoute Stéphanie, j'aurais voulu te poser encore plein de questions. En tout cas, je suis très contente de faire ta connaissance de cette façon-là. Voilà. Et donc, on se quitte avec une de tes productions. Hein. Mm-hmm. Tu nous as parlé de ta collaboration avec Dour Le Potier Quartet. Mm-hmm. J'invite d'ailleurs les auditeurs, les auditrices à aller voir le clip sur le web, sur YouTube ou ailleurs. C'est d'une beauté, voilà. On sent que c'est un univers très très riche qui va bien au-delà de la musique, voilà, qui va bien au-delà d'une proposition artistique. Voilà, on est dans un rapport au cosmos et à la terre, aux racines. Donc tout ça c'est très riche et c'est très généreux aussi. Donc merci aussi pour ça et à tes compagnons de création, notamment Jonathan et tous tes amis. À ta fille aussi, qu'on retrouvera bientôt sur Radio Brogenet, mais on n'en dit pas plus, c'est une surprise. Voilà, donc on écoute le titre Release, ça veut dire Libération, c'est ça. Et donc on se dit à bientôt. Rendez-vous au festival Empreinte d'artistes. Hein, et puis, bonne route à toi, Stéphanie Théobald.
Merci à toi.